Bonjour à tous.
Let's go.
Eh oui, c'est une émission très spéciale aujourd'hui, oui. Puisque c'est déjà un, nos 5 ans.
Oui.
On rentre à la maternelle.
Ouais.
Oui. Deux, c'est une émission en public. Est-ce qu'il est là, le public?
Ouais.
Oh, putain, il est chaud.
Ouais, il y a du monde en fait, en vrai. Hein. On pensait pas, on pensait que tout le monde allait dire non. C'est bon, j'ai autre chose à foutre que de venir un vendredi soir à la Barbotte. Puisqu'on remercie la Barbotte qui nous accueille, bien sûr.
Oui, la Barbotte à Montpellier. Allez boire des bières de notre part.
Exactement.
Voilà, mais c'est vous qui payez. Sinon, je suis toujours le doc pour ceux qui connaissent pas. Et c'est toujours Néo, c'est marqué sur nos t-shirts. Mais vu que c'est en audio, bah du coup, on voit pas. Mais au moins, c'est pour le public.
Pour les 5 ans, je suis obligé de le faire.
Bonsoir.
Non, bah voilà, merci à tous d'être là. Merci le doc. Une émission donc anniversaire pour... qu'on devait faire déjà il y a un moment,
ouais.
Et que finalement on fait maintenant, donc mieux vaut tard que jamais.
Exactement, et ça va être sur le présent et le futur de la CG et des jeux vidéo, donc un programme de 12 heures, voilà, merci. on va essayer de faire court, mais condensé et bien, parce qu'on a des super invités,
mais...
Page de pub.
Ok, d'accord. Allez, je m'y colle. Désolé pour ceux qui sont dans la salle. Non, bah évidemment, voilà, comme d'habitude, ça fait 5 ans qu'on le dit. Si vous voulez nous soutenir, le plus important, c'est de parler du podcast. On a 2-3 personnes dans la salle qui sont tombées sur le podcast par hasard sur le site.
Sans se faire mal.
Oui, en plus, ouais. Donc, ce qui est effectivement une bonne remarque. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Eh oui! Et du coup, pour nous soutenir, mais il dit des conneries, après voilà, je suis perdu forcément. Pour nous soutenir, parler du podcast évidemment, vous pouvez évidemment aussi aller sur le Spreadshirt où il y a plein de petits goodies si vous avez envie d'être full brandé, parce que je sais pas pourquoi Nike ça vous plaît pas et vous avez envie d'être CGY sur le cœur. Et puis évidemment, les Patriobipèdes qui, je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on a tout le matos qu'on a là et qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. Donc,
toute la cocaïne. Enfin, pardon.
J'ai pas vu la couleur, bizarre. Mais bon,
c'est blanc. Voilà, à savoir que pour cette émission en public, les Patriobipèdes ont droit à des fauteuils super classe et à des bières gratos. Voilà, je dis ça, je dis rien.
Oh, bah,
et il va y avoir d'autres lives. Je dis ça, je dis rien.
Bah, tu fais une meilleure pub que moi, en fait. J'ai pas besoin d'en parler.
Non, mais bon.
Non, mais voilà,
ça,
y a
c'est pour dépenser les sous. Ce qu'il faut, c'est en rentrer.
Effectivement,
il
faut en rentrer, comme tu dis. Donc, sur Patreon, il y a 3 paliers. Le junior, le mid, le senior. À environ, j'ai toujours environ, parce que ça change tout le temps, de toute façon. Donc, 1, 3 et 5 dollars. Voilà, vous avez les émissions.
Par émission.
Une semaine par émission. Les émissions en avance. Et plus vous montez comme ça, plus vous allez pouvoir mettre des choses de votre CV, votre démo reel. Vous allez avoir accès à notre Discord aussi, où il commence à y avoir quelques personnes qui s'échangent pas mal de choses. Sachant qu'on a des gens qui nous écoutent depuis le Japon. Je dis ça, clin d'œil à ceux qui voudraient aller au Japon.
Salut Mitch.
oui, qui auraient aimé être là. Et voilà, je pense que c'est tout. Évidemment, il y a les dons, il y a tout ça, il y a plein de choses, comme vous le savez déjà. Je pense que le plus important, c'est de rentrer dans le sujet tout de suite.
Oui.
En accueillant nos invités.
Exactement, nos invités qui sont au nombre de 3, parce qu'on fait les choses en grand, eh ouais. Et nous avons avec nous Justine, François et Valdo. On les accueille d'un fort. Oui, c'est maintenant que vous venez. Voilà. On les remercie d'être là.
Bonsoir.
C'est la première fois qu'on fait 3 invités.
Bonsoir.
5 autour de la
table. Alors, en plus, en live, en public en tout cas.
Ouais. Ouais.
Est-ce que vous les entendez bien? Est-ce que vous pouvez parler 2-3 minutes entre vous?
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Alors, ça, c'est Valdo.
Bonsoir.
Ça, c'est François.
Bonsoir.
Et ça, c'est Justine.
Ouais. Voilà, let's go.
On les entend, c'est cool. Alors, qui sont ces 3 personnes? Eh bien, ce ne sont pas des illustres inconnus. Bah, non. Et ce ne sont pas des gens qui n'y connaissent rien. Bah non, c'est pour ça qu'on les a pris. On est pas cons, hein. On va commencer par qui se présente. Messieurs, voilà, la galanterie est de mise. Justine, présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu?
Oui, alors moi, je suis gameplay programmeur à la Splash Team. Voilà. À la Splash Team.
D'accord. C'est un aqua boulevard quelconque.
C'est un studio qui est à Montpellier, pas loin d'Antigone, et qui a fait Tinykin, si vous connaissez peut-être, et Splash juste avant.
Eh ben, on mettra les liens dans les notes de l'émission. Merci Justine.
Hello.
Valdo.
Bah moi c'est Valdo. J'essaie de la faire courte parce que je suis souvent bavard, faudra m'arrêter. J'ai fait 8 ans de FX dans l'animation 3D, aussi bien en France que au Canada, sur à peu près tous les types de prod, aussi bien sur du long métrage Marvel que sur des publicités, que des petites choses, etc. Après j'ai monté une boîte avec des copains qui s'appelait Menhir FX, enfin qui
on
s'appelle
a fait
toujours.
Une émission avec eux.
Oui, tout à fait. Et je suis resté 4 ans associé là-bas et on a fait grossir la boîte et au bout de 4 ans j'ai dit que moi j'avais envie de voler de mes propres ailes et actuellement je suis du coup là-bas je faisais aussi bien du pipe que de l'infra que du CTO que du plein de choses parce que quand on est associé on prend toutes les casquettes et là depuis presque un an on va dire. Je suis à mon compte, donc je monte des pipes en ce moment à iLogic Studio, un pipe USD Solaris sur Houdini, entre autres.
Attends, on va décortiquer ça.
Oui, bien sûr, je fais du name dropping comme ça. Et après, je donne aussi des cours aussi bien d'intelligence artificielle théorique, et j'insisterai sur ce point-là, avec aussi des effets spéciaux et du pipeline à ArtFX entre autres, mais surtout à ArtFX parce que je les aime beaucoup et j'aime bien leur philosophie. Voilà, c'était un peu long mais
ça valait le coup. Et François?
Et moi du coup François Tarlier, je suis CTO à Dwarf depuis une dizaine d'années maintenant.
City quoi?
CTO, ah tu veux l'explication?
Ouais, je suis chiant hein.
En gros c'est tous les choix technologiques et stratégiques au sein du studio pour réaliser les films ou les séries qu'on a besoin de faire. Et avant ça, j'avais fait une petite dizaine d'années à Ubisoft.
D'accord.
Pareil, où j'ai fait du tech art, du match move, du pipeline, un peu plein de choses.
On les connaît un petit peu chez Ubisoft. Voilà. Et CTO, ça veut dire quoi?
Chief Technological Officer.
Officer.
Merci. Et on n'a pas des chèvres hein, ce soir.
Oui, vas-y.
Mais j'en prie, vas-y.
J'allais faire la chèvre pour le
je vois pas.
Est-ce que j'attaque direct avant qu'on rentre dans... Parce que là, j'imagine que t'allais rentrer dans le sujet.
Ah oui, complètement.
Voilà. Est-ce que ça vous dit un petit blind test? Un blind test
super
prompt.
Mauvais.
Alors, vous avez le droit de participer aussi, évidemment. En fait... Ah, tu l'as? Ah bah parfait. Parfait. Bon, alors c'est bon, ça se fera pas sur mon téléphone. Je vais vous mettre des trucs. C'est les prompts à faire quelque chose. D'accord. Il va falloir me trouver éventuellement l'œuvre en question. Et pourquoi est-ce que c'est les prompts? Ok. Est-ce que vous avez entendu? Parce que je crois que j'ai pas parlé dans le micro. C'est ok. Ok, vous êtes prêts?
Ok.
Ça va partir tout de suite. Ah, c'est la pub. Putain.
Les listes YouTube, hop là.
Le doc. Voilà, ça part. Est-ce que quelqu'un connaît l'œuvre dont ça sort? On va le laisser un petit peu. Ah, j'ai vu des yeux se lever là-bas.
Donc il y a une autre pub qui s'est prise.
Si je vous dis Hitchcock. Non. Non. Encore un autre. Non plus. Je dis bien que c'est Hitchcock, hein. Ou alors je me ridiculise devant toute mon audience.
C'est bon. Mais arrête de tricher, François. Enfin.
Eh bien, c'était Vertigo. Ah, okay. C'était Vertigo. Et pourquoi Vertigo? C'est le prompt, ça quoi? On est en 1958.
Pour l'effet.
Pour les effets, est-ce que tu as une...
Le travelling compensé qui s'appelle aussi l'effet Vertigo, non?
Alors, ça c'est plus la raison cinéma, mais on est dans un podcast qui s'appelle CGI. Ah. C'est le premier film à utiliser de la CGI, justement. Oh. Puisque le générique d'intro est fait avec ces espèces de spirographes comme ça, et c'était la première fois qu'on utilisait des images par ordinateur dans un film, dans un long métrage. Voilà.
Ok, c'est stylé. Merci.
Cool. Et c'était pas la première fois du travelling compensé.
Ah, ok.
Il y en aura. Il y avait eu un ou deux essais avant, mais qui n'étaient pas très réussis, et du coup, bah.
Oui, comme toujours.
Hitchcock, etc. D'accord. Bah voilà.
Comme toujours dans le cinéma, il y a toujours des essais avant, des machins, etc. Mais bon. Il y a des bières à gagner, donc vous gagnerez sur les prochains, et ils sont plus faciles, vous verrez.
Et en parlant de première fois, etc., on va entamer ces questions, mon petit Néo.
J'y vais. Oui, voilà, mais c'est toi qui avais la playlist de vidéos, effectivement. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on voulait faire. Hein. Est-ce qu'on pourrait, juste entre nous, comme ça, en rigolant, rappeler quand même d'où ça vient tout ce bordel, hein, parce que là on est en 2024, mais le début de la CG quand même, est-ce que vous avez connu déjà des trucs vraiment à l'ancienne, tah, à l'ancienne comme on dit,
tah, à l'époque, tah, à l'époque. Je pense que à ma droite, tu dois être un petit peu plus âgé que moi.
Vas-y, voilà. Ça, tu l'as droppé direct.
On,
en fait.
On se connaît bien avec François, du coup, forcément, ça tacle un petit peu. C'est vrai. Moi, je pense que ouais, le plus âgé qui revient dans ma mémoire, c'est du Maya Software en termes de rendu, avec du Final Gathering, si ça parle à des gens. Mais mis à part ça, faire des textures et faire des raccords de textures dans Photoshop avec l'outil dupliqué. Mais j'ai pas énormément de trucs vraiment très très vieux sous
après, mon pied. Après, est-ce qu'on parle que 3D ou vraiment tout ce qui était effet avant?
Parce que bon, plus la CG en tant que telle. Et, tu vois, okay. Parce que c'est vrai que c'est juste histoire de faire un petit tour, parce que comme disait Doc, c'est pas forcément le sujet. Là, on va plutôt être dans le présent et dans l'avenir. Mais c'était pour dire un peu, bah ouais, à l'époque, quand même, on faisait des trucs...
Moi, le premier film dont je me rappelle et qui m'a donné envie de rentrer dans cette industrie, c'était Tron. Genre, donc,
Tron Legacy. L'original.
Ouais, l'original. Et
1982, si je dis pas de conneries.
Ah, je pense que j'étais pas né, ouais.
Donc, du coup, je te replace.
T'es pas aussi vieux, c'est ça,
tu vois.
C'était une belle perche.
Mais ouais, pour moi, c'est un des plus vieux dont je me rappelle.
Ouais. Justine, toi, qui est plus récente.
Qui est plus récente.
Ouais, je suis un peu plus jeune. Plus récente, c'est plus ça. Jeune. Non, bah, je pense les premiers Pixar, enfin, pas les premiers, parce que je pense pas que j'étais née non plus quand Toy Story est sorti, mais...
95.
Mm-hmm. Et ben, un an après, du coup. Et, mais ouais, les premiers Pixar, j'ai vu au cinéma, je saurais même pas dire lequel c'était. Peut-être Monstres et Compagnie, je pense.
Ah oui, oui, ouais.
Voilà.
Effectivement. Voilà. Non, ça va, en vrai, c'est vrai que bah, j'ai commencé ma première année d'école, c'était sur 3DS Max, donc c'est dire. Et après, ils ont très vite, bon, allez sur Maya, parce qu'en fait, ça va mourir. Donc c'était déjà à ce moment-là. Et, mais bon, voilà, c'est vrai que moi, je me souviens surtout de tous les docus que j'ai pu voir, les premières mains en 3D, les trucs qui mettaient des heures et des heures à calculer, une pauvre image perdue. Alors qu'aujourd'hui, on a des farms qui sont en cloud et qui te calculent des milliards de trucs à la seconde. Ça a bien évolué quand même depuis, quoi.
Il paraît même le premier Jurassic Park. C'était quand même assez incroyable, même quand il est sorti, quoi. Pour nous, tu vois, d'un point de vue CG, ouais, et tout, c'était quand même assez hallucinant.
Il parle plus fort. Oui. Ils t'entendent pas au fond, je pense.
Ah. Il est timide, le petit. Moi, c'était Méliès. Je suis le plus vieux.
Non, tout de suite. Hein.
Non, mais c'est les bases du compositing. Je suis désolé.
Ah, mais on n'est pas dans la CG. Bon.
Avec les matte painting aussi sur les Star Wars, etc., qui étaient peints à la main.
Sur des tables en verre, enfin, sur des plaques en verre, etc.
Il y avait vraiment un historique de ce côté-là qui est vachement intéressant à revoir aujourd'hui et à se dire, bah, en fait, c'est d'une impressionnant artistiquement d'avoir des gens qui étaient capables de faire ça. Et en fait, on a conservé les mêmes techniques à travers le temps, mais en les rendant plus accessibles, etc. Et moi, je trouve que c'est beau aussi d'aller voir ce qui se faisait à l'époque, quoi.
Bon, bah très bien.
Sinon, moi je crois que j'ai commencé sur Softimage, donc Feu Softimage.
Ah bah voilà. Le seul. C'est le seul d'ailleurs, ils étaient deux.
On était deux. Et en parlant de Softimage, bah, on a dit Softimage, 3DS Max, Maya, tout ça c'est.
Autodesk.
J'allais dire le passé, mais c'était pas ça la bonne réponse.
Bah, voilà, c'est ma question. Alors, est-ce que Autodesk, alors que ce soit dans le jeu vidéo, puisque Justine est la représentante du jeu vidéo, et dans la CG, messieurs, voilà. Est-ce que Autodesk est toujours en position de leader? Est-ce que pourquoi il est pas plus en... Hop, j'ai spoilé. Pourquoi ne serait-il plus en position de leader, à votre avis? Ah, tout le monde se tape.
Moi, j'ai un avis.
Balancé, hein, on s'en fout, il nous écoute pas.
Je pense que
Valdo,
c'est. Majoritairement, c'est une question de, dans un premier temps, de stratégie d'une très grosse entreprise et d'entreprises concurrentes qui peuvent aller chercher un marché. Et quand on regarde en fait le nombre de développeurs qu'il peut y avoir sur Unreal ou sur Houdini versus un des produits d'Autodesk, par exemple Maya, et quand on regarde aussi la part que représente Maya dans le chiffre global de Autodesk, c'est extrêmement minime. Donc en fait, aux yeux d'Autodesk, mettre de l'effort dans mettre plus de dev, plus de moyens, etc., dans Maya spécifiquement plutôt que AutoCAD par exemple, bah ça a pas beaucoup d'intérêt.
Et donc AutoCAD qui fait plutôt quoi ?
Qui est plutôt orienté pour l'industrie, pour dire bah on va faire des pièces qui vont être usinées, qui vont être sur des tours, qui vont être et le but c'est vraiment de dire bah où est-ce qu'on met notre énergie et comment combien ça va nous rapporter à la fin, quoi. Et quand on voit des acteurs comme, mettons, SideFX à un moment qui disent, bah, nous, on a envie d'être sur un créneau qui est très, très spécifique et on pense qu'on peut être les meilleurs sur ce créneau-là, ils ont déjà une volonté en tant qu'entreprise de dire, bah, voici notre but et on va y aller.
SideFX qui sont Houdini.
Oui, exactement, pardon. Ouais. Et quand on regarde Unreal, où on pourrait aussi citer Blender sur aussi le nombre de développeurs qui est aussi indépendant, etc., et comment ça peut se gérer, bah, il y a vraiment une question de force de frappe à la fin. Donc si on est Autodesk et qu'on développe des éléments et qu'on rachète aussi des softwares pour juste les faire mourir à la fin, pour dire bah on écrase la concurrence en les rachetant, bah quand il y a d'autres acteurs qui ont un petit peu les dents qui rayent le parquet et qui ont envie en fait de se démarquer, bah ça devient de plus en plus difficile pour Autodesk de rester dans le game, quoi.
Est-ce que toi, Justine, qui vient dans le milieu depuis plus récemment que nous, il y a encore beaucoup, tu sens que ça se partage un peu plus quand même avec d'autres softs. Alors toi, tu es en JV, donc forcément, Maya doit pas être hyper présent.
Bah alors non, dans la boîte précédente où j'étais à Whitechip, les gens étaient sur 3DS Max. On avait beaucoup de tools en fait pour que il y avait la 3D, mais il y avait aussi les level designers en fait qui faisaient tout dans 3DS Max parce qu'on avait un moteur maison, donc c'était un peu particulier, les tools étaient dedans. Mais globalement dans l'industrie, je pense qu'on est beaucoup sur Blender, en tout cas ça migre beaucoup sur Blender. Là dans mon taf actuel, on est plutôt là-dessus par exemple, et c'est vrai que ça a le côté gratuit du soft aide beaucoup aussi, notamment pour les studios indés qui n'ont pas forcément l'argent à mettre dans un Maya, un 3DS Max, etc. Ben Blender,
préfère le mettre ailleurs dans les salaires par exemple.
Voilà. Bah ouais, c'est quand même mieux. Donc clairement, Blender a le vent en poupe dans le milieu.
Ouais, moi, je ne l'ai jamais utilisé, donc j'ai du mal à voir. J'entends toujours qu'il est utilisé, il est utilisé, mais souvent chez les indés. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou...
Non, je pense pas que, mais tu as aussi le problème du... Autodesk est peut-être encore leader aussi, parce que tu as tout l'historique. Ça fait longtemps qu'ils sont là dans les studios. Et c'est très compliqué et parfois très coûteux pour un studio de changer et de se passer d'un logiciel, parce que tu as du développement autour, tu as peut-être des plugins, des scripts, tu vois, un pipeline qui a été développé avec ça. Et des fois, ça demande un gros effort de pouvoir se séparer de ça. Et je pense que c'est ça aussi le fait qu'ils n'ont même pas d'effort à faire. Enfin, tu vois, ils n'ont même pas besoin d'innover, ils sont tellement ancrés que c'est de l'acquis en fait pour eux.
Mais c'est marrant. Mais ils s'aperçoivent bien qu'ils sont en train de perdre des parts de marché. Enfin,
oui, mais comme il dit, part de marché.
Ils s'en foutent, en fait. C'est minime.
Elle vaut rien.
Je connais pas les chiffres et je me suis pas renseigné sur les chiffres exacts, mais je pense que je serais pas très loin si je disais que c'était Maya représente 5% du chiffre d'affaires d'Autodesk.
C'est moins de 10%, je crois.
Et en termes de nombre de devs.
On me fait signe dans le public que c'est un peu moins encore.
et en termes de nombre de développeurs actifs à l'année, c'est ridicule à côté de ne serait-ce que des boîtes qui sont un peu plus grosses, type SideFX. Enfin, largement moins grosses que Autodesk, mais qui sont un peu les premiers à dire bah, on a une entreprise, on a une structure, etc. C'est impressionnant la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Ouais.
Pourtant, on sent qu'il y a une envie. On a fait pas mal d'émissions sur Unreal là, l'année dernière. Et je suis allé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, au Bring Your Own Animation à Paris. Un petit rassemblement d'animateurs dans les bars.
Un troupeau.
N'hésitez pas, si vous êtes animateur, à aller à ce truc-là. C'est vraiment cool. Vous pouvez avoir des petites reviews gratos de professionnels du milieu. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai rencontré du coup des étudiants et des étudiantes qui, leur première question, c'était de me parler de Praxinos et donc de Odyssey, qui est un soft qui fait de la 2D, en fait, de la story et de l'anime, etc., directement dans Unreal.
N'hésitez pas à écouter l'émission.
Effectivement. Et donc des animateurs aussi qui me disaient, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se former sur Unreal là? Parce que donc, j'étais un peu coincé, j'étais en mode, bah, en vrai, si t'es le seul, ça vaut le coup, parce que tu vas valoir de l'argent, ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que tous les studios n'ont pas forcément Unreal comme soft, quoi.
Non, et puis la transition, c'est pas rien, quoi. C'est quand même une grosse transition à envisager. C'est pas comme passer de Maya à Blender ou Maya ou Houdini.
Pourquoi c'est une grosse transition ?
L'approche est vraiment différente. Enfin, si tu viens du jeu vidéo et que t'es dans le jeu vidéo, ça, tu peux peut-être avoir... comment dire ça ?
C'est, enfin, t'as le droit de dire des gros mots, François. Hein, je te rassure.
Tu m'as briefé. Hein. En fait, c'est vraiment la façon de produire qui est totalement différente. Et le risque, c'est si tu prends Unreal aujourd'hui et que tu essayes de produire de la même façon que tu ferais avec un Maya ou autre chose, tu vas être énormément dans la douleur. Tu vois où je veux en venir ?
Pas du tout. Voilà.
Et du coup, oui, c'est plus qu'une remise en question ou l'intégration d'un logiciel. Dans beaucoup de studios, tu utilises plusieurs logiciels. À chaque fois, on parle de Maya, 3ds Max ou Blender. Souvent, c'est et, en fait. Surtout avec Houdini. Unreal, si tu veux vraiment le prendre, ou Unity, pareil, c'est un changement de quotidien, quoi. C'est vraiment... ouais.
Et dans le jeu vidéo, du coup, parce que ça vient du jeu vidéo, que ce soit Unity ou Unreal.
C'est ça, ouais.
Est-ce que c'est aussi... comment dire ? C'est pas un renouveau, du coup.
Alors, non, en fait, dans le jeu vidéo, il y a quand même des boîtes, et notamment des grosses boîtes, qui ont leur moteur maison et qui, du coup, sont pas forcément sur des softs comme Unreal ou Unity.
Ouais.
Après, Unity a beaucoup été utilisé dans le milieu indé parce que, si je me souviens bien, je crois qu'il a été gratuit avant Unreal, donc plus accessible. Et c'est un plus petit soft qui est aussi même plus accessible. Quand on l'ouvre, en fait, il y a beaucoup moins de choses qui sont déjà là, toutes installées, toutes prêtes. Donc, en fait, on peut plus facilement faire un peu son propre truc et faire son petit jeu, en fait. Et là où Unreal, depuis qu'il est gratuit, commence à prendre des parts de marché et commence à s'intégrer dans les grosses boîtes, je ne saurais pas trop dire. Ça dépend, je pense, des boîtes, de celles qui avaient déjà leur soft ou pas, de à quel point ils marchaient bien, etc., etc. Mais même des studios indés, je pense, se mettent à Unreal parce que, bah, du coup, ça devient gratuit, accessible et... Et voilà, donc ça dépend un peu la philosophie de la boîte, ce qu'il y avait avant, ce qui marchait ou pas, et donc le besoin, et aussi du jeu qu'on veut faire. Parce que clairement, Unreal a beaucoup de choses très pratiques pour les jeux réalistes, là où faire de la 2D, c'est plus facile dans Unity, sans toucher à trop de trucs, donc voilà.
Ben, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission des VFX, avec Noé.
Avec Noé et Baptiste.
Et Baptiste, ils sont dans le public, on leur a fait coucou. Mais oui, qui disait que c'était... quasiment tout prêt. Enfin, il y avait des presets, il y avait des trucs, et en fait, c'était quasiment du clé en main, beaucoup plus que Unreal. Alors, tu disais que c'était gratuit, Unreal, pas tout à
fait. Non, pas tout à fait, oui, c'est vrai. C'est pas exactement la même chose pour Unity non plus, à partir d'un
certain montant.
Si tu fais pas gratuit, voilà. Effectivement, il faut quand même acheter au moins une licence pour faire ta build, en fait. Ce que beaucoup de studios indés font, ils payent juste la licence pour la build. mais oui, voilà. Donc, ça a un petit coût, mais disons que tu peux l'installer gratuitement sur ton PC et tu peux te former gratuitement. Et déjà, rien que ça, c'est quand même...
Ça, c'est un gros changement. Hein.
C'est un gros changement.
Justement, les formations... Putain, c'est une transition formidable. Est-ce que vous pensez... Alors, toi, Justine, parce que t'es plus... fraîche, sortie de l'école par face à ces deux dinosaures que tu as en face de toi.
Ça tire à balles réelles, c'est une catastrophe. Hein.
T'as commencé en même temps.
Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Le c'est le retour de bâton. Hein.
On n'a pas bu. Est-ce que les écoles forment bien ? Alors toi, par rapport à tes études qui ne sont pas si éloignées, et Valdo et pourquoi ça rigole dans le public, ça rigole. J'essaye d'être poli. Et Valdo et François, par rapport aux étudiants que vous voyez arriver ou aux juniors que vous voyez arriver, est-ce que les écoles, elles forment correctement aux outils de demain ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle les outils de demain. Si on reste sur Unreal et Unity dans l'industrie du jeu vidéo, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu une formation sur Unity dans mon école parce qu'il se trouve que le prof qu'on avait était plutôt formé à ça plus qu'à Unreal. Ça, je pense, ça dépend des écoles et ça dépend du coup aussi où les écoles vont envoyer leurs étudiants, si elles vont envoyer plutôt vers des grosses boîtes ou pas, etc. Voilà, mais après, les outils de demain, je sais pas trop le reste de ce que ça veut dire, donc je vais peut-être laisser... les autres
les garçons.
Oh, toi, t'as une bonne expérience, donc.
Oui, mais c'est pour ça.
Ah, tu veux m'essayer dedans. Ok.
François, vas-y, lance-toi.
Après toi.
Si on parle des outils temps réel à utiliser dans l'animation, donc au moteur comme Unreal et Unity, c'est vraiment très neuf aujourd'hui, cette transition-là. Et du coup, est-ce que les formations Unreal, par exemple, sont adaptées vraiment à l'animation ? Je pense pas tout à fait encore, mais parce que le besoin, il est pas forcément très clair non plus. On commence nous-mêmes à le découvrir, donc c'est un peu compliqué. Au niveau des écoles, pour du généraliste, peut-être très bien, mais pour le spécifique dont on a besoin d'animation, pour le moment, c'est un peu tendu.
Ouais. Ok. Valdo, tu veux corriger ce qu'il a dit?
Non, pas du tout. mais c'est vrai qu'il y a un très très grand sujet à mes yeux sur la manière dont forment les écoles et spécifiquement en France. Moi, cette année, j'ai donné cours dans 5-6 écoles différentes.
Et tu parlais d'Artefix tout à l'heure aussi. Ouais.
Artefix, j'ai fait Brassard, j'ai fait New Age. Il y a quelques années, j'étais à l'ESMA à donner des cours. J'en ai fait d'autres dont j'oublie le nom. Et la stratégie des écoles varie du tout au tout. On a d'un côté des écoles qui disent bah, on va facturer à des élèves 10 000 euros par an pour leur donner juste 3 mois de cours et le reste du temps, ils se débrouillent. Et c'est une réalité aujourd'hui, il faut en avoir conscience. Et il faut le dire parce que je trouve que je donnerai pas de nom spécifiquement, surtout pendant un podcast.
Mais on mettra dans les notes de l'émission. Non, je les connais.
Mais c'est des gens où moi, activement, en tant que prof, quand on vient me chercher pour dire, bah, on cherche un intervenant sur Houdini, mettons, moi, maintenant, je refuse d'aller travailler avec ces gens-là. Parce que je dis, bah, non, pour moi, c'est du vol caractérisé. Et quand je m'en rends compte, je demande à voir la directrice ou le directeur pour dire, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai besoin de comprendre, en fait. Donc, il y a ça d'un côté qui existe. Et après, il y a des écoles qui sont beaucoup plus au fait et beaucoup plus à l'écoute du marché aussi. Et qui disent, bah, sur quoi on peut former? Qu'est-ce qui va changer réellement dans les années qui vont arriver pour les étudiants? Et il y a une difficulté qui est extrêmement forte de dire, bah, des étudiants qui arrivent en première année, s'il y a un cursus de 5 ans, bah, le marché en 5 ans, il bouge vite, en fait.
Surtout et donc, en ce moment.
Ouais, surtout en ce moment. Mais on se rend compte, par exemple, qu'il y a des écoles qui forment de plus en plus sur Houdini. Moi, je parle de Houdini beaucoup parce que c'est un soft que j'aime beaucoup. Mais, et j'ai fait des projets sur Unreal, etc. Mais le truc qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de prise de risque aussi pour les écoles de dire bah, sur quoi on va former. Et à quel point ça va être intéressant pour les étudiants. Et c'est pas gagné, c'est pas facile. Du coup, je botte un peu en touche sur la question de est-ce que ça marche mieux? Oui, on se forme plus à Houdini aujourd'hui. Ah, sur Unreal, je le vois pas encore, mais je pense que ça arrivera. Est-ce que ça changera ou pas? J'espère pour les étudiantes qui sortent, mais c'est pas gagné.
Et je pense aussi que t'as beaucoup d'écoles. Enfin, pour moi, les écoles qui ont mieux marché sont celles où t'as des intervenants, justement, comme il disait, tu vois, qui ont fait de la prod récemment. Et qui partent formés pour avoir ces besoins de prod. Mmh. Parce que sinon, t'as des étudiants qui ont été formés de manière généraliste, mais quand ils arrivent en prod, bah, ils prennent une grosse claque parce qu'ils n'ont pas les notions, tu vois, de ce qui, enfin, la vie de prod, quoi, et toutes les contraintes que tu peux avoir. Et le petit plus que t'as en métier. Et les écoles qui font venir des intervenants régulièrement, qui sont souvent, parce que, comme il dit, hein, la prod, ça, enfin, l'animation, l'industrie change beaucoup, elle bouge beaucoup.
Surtout en ce
moment.
Et
que tu dois rester au fait du truc, en fait. Et c'est, tu peux pas le faire si t'es pas, enfin tu vois, si tu vas pas souvent faire une production.
Et des intervenants dispo, il y en a un paquet. On va revenir, on va y revenir juste après.
Juste après quoi, mon petit?
Après un nouveau petit blind test. Est-ce qu'il y en a qui veulent des bières?
Let's go.
Est-ce que vous avez soif? Ouais. Parce que nous aussi.
Alors il y en a un. Le premier va être un peu dur. Le deuxième il va être gratos. Ouais, le deuxième. le deuxième est gratos. J'en fais deux parce que vous avez été nuls à celui d'avant. Bon, le premier, en vrai, le titre du film, je pense pas que vous l'aurez, mais si jamais... Vous êtes prêts?
Il est désobligeant.
J'entends rien. Ah bah c'est parce que le téléphone est bas. Le son est pas fort. Si je vous dis des vitraux qui explosent dans une église... Et il y a un truc qui tombe. On est en 1985, je crois. Non, Young Sherlock, ça vous dit rien? Est-ce que vous seriez capable d'imaginer pourquoi en 85 c'était un banger absolu? Le film est nul, hein, mais.
Non, c'était dur, il est pas si nul que ça. C'est une production Amblin, donc Spielberg, machin.
Oui, il y a du monde derrière, c'est sûr.
Ah, il y a du monde derrière, oui.
Ah oui, non, ça c'est le big deal, ça n'a rien à voir. Bon, alors celui-là, donc il était dur, je vous l'avais dit. Non, c'est pas du fond vert.
Un faux vert. Un faux vitrail.
Ah, on s'approche.
En sucre, par exemple.
Les vitraux ont été animés une fois éclatés.
Et ça a été dit devant. C'est le premier personnage animé full CG. Et c'est un chevalier qui se décroche comme ça d'un vitrail. Et c'est la première fois qu'on voit un perso full CG animé dans un live action. Okay. Billy, tu peux prendre une des bières qui est devant
toi. C'est les aventures 80. Du jeune Sherlock Holmes.
Tu as quatre bières à tes pieds. Ah ouais. Tu peux choisir. Bon, alors celui-là, il va être plus facile. Vous êtes prêts? Attention. Quel est ce film ?
Le Roi Lion ?
Non. C'est pas le Roi Lion. Dommage. C'est pas le Seigneur des Anneaux. Voyez donc. C'est non, toujours pas.
Vidéo, ouais.
On est en 99. Il y a le prince de quoi, j'ai entendu ?
Gladiator.
C'est pas le prince d'Égypte ?
Si, j'ai entendu.
Qui a dit Gladiator ?
Et oui, la musique de Hans.
C'était bien.
Zimmer.
Voilà, c'est bien Gladiator. Et est-ce que vous savez pourquoi Gladiator mérite d'être dans les prompts ?
Parce qu'on voit une montre.
Non.
Si.
Pour le. Pour le quoi, j'ai entendu ?
Le
skater. Le skater, non. Non, toujours pas. Un truc qu'on aurait fait dans un. La première fois que beaucoup de monde en parlait, c'était dans un Star Wars.
Caresser du blé.
Non. Dans un Star Wars récent.
Un Star Wars récent.
De la merde, mais c'est vraiment une norme.
Eh ben, sachez que c'est le premier film dans lequel on a reproduit un artiste mort pendant le tournage.
Oh,
ah, un artiste ouais. mort pendant le tournage.
Ah, oui. Les derniers plans de j'ai oublié le nom du monsieur.
Alors, il nous en voudra pas, je crois.
Il y a un acteur voilà qui est derrière une prison à la fin, etc. Pour ceux qui connaissent bien le film. Bref, cet acteur est décédé pendant le tournage et c'est la première fois qu'ils ont vraiment retranscrit voilà le visage complet en essayant de refaire une sorte de performance capture à l'ancienne. Donc voilà, je sais pas qui a dit Gladiator, mais il a le droit de venir prendre une bière.
Et c'était quoi l'année, t'as dit ?
99.
Parce que la techno à l'époque pour refaire un digidouble.
Ouais, chapeau.
Bon courage, quoi.
Et c'est pour ça que c'est que la tête. Et en fait, ils se servent de certains shots dans le film où c'est à peu près les mêmes angles de tête et tout.
Il y a le SSS en 99.
Et ça se mélange un peu et tout. Ouais, c'est très bizarre.
Okay,
c'est très compliqué de trouver du vrai making-of.
Ah ouais.
Mais
ouais.
C'est celui-là qui revient tout le temps.
Ah, trop cool, merci.
Voilà. On peut continuer. Je disais du coup.
Bière.
Je disais du coup, oui, qu'il y a beaucoup, 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 et j'en sais qu'il y en a pas mal dans la pièce qui sont ou qui vont l'être malheureusement, et moi le premier, sur le marché.
Voilà, la transition a été.
Allez.
Ah oui, je vous ai pas dit, vous êtes virés les gars du fond. Non. l'état de l'industrie là, l'état de l'industrie en ce moment, c'est un peu la chiasse, non ? C'est un peu la merde.
Depuis un an et demi, ouais, déjà, ouais.
Bah ouais, ça fait.
Enfin, ça a commencé. Pour moi, ça a commencé à l'annonce. Alors, et c'est pas lié. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup et du coup, je vais essayer de me taire et laisser la parole aux autres. Mais mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que la corrélation, c'est post-Covid et surtout à l'annonce de Noël il y a 2 ans maintenant, pas celui qui vient d'arriver. Donc, on est en 2024. Alors, on enregistre le podcast.
C'est en 2022.
Mais... Oui, le Noël 2022, à mes yeux, c'est l'annonce de ChatGPT qui sort au grand public. Et c'est pas la raison. Et je pourrais en parler longuement parce que c'est un truc qui... Mais grosso modo, moi, je le vois comme étant un truc où c'est... je vais me taire et je vais laisser parler les autres avant. Parce que je vois comme je vais partir en mode rabbit hole. Mais ouais, ça fait... Moi, je le situe sur 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, ouais. Ouais.
Ouais, je suis totalement d'accord. Ça fait 1 an et demi que, mine de rien, c'est un peu bizarre. Et tu parlais de post-Covid, et je pense qu'il y a eu, de ça, en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo, on parle beaucoup du fait que pendant le Covid, les gens se sont retrouvés enfermés chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué. Du coup, les éditeurs ont mis beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et c'est sorti tout quand le Covid était fini, et ça ne s'est pas vendu autant que ce qui s'espérait, en tout cas sur beaucoup de projets, j'imagine. Et maintenant, il y a du coup... C'est pas qu'il y a plus d'argent, mais c'est qu'ils sont en mode « Ah, on s'est trompé, alors on va faire plus attention !» Mais du coup, ils mettent plus trop d'argent et les studios ont vraiment du mal à trouver des financements, à
beaucoup
vendre
plus
leur...
frileux, quoi.
Ouais, beaucoup, beaucoup plus frileux. Et là, on est dans une période bien tendue, avec beaucoup de studios qui licencient, avec beaucoup de gens sur le marché, donc...
Et toujours des étudiants qui arrivent.
En... Oui, non, en plus,
et
encore.
Qu'est-ce qu'on va faire, où on va les mettre.
Donc non, là, le jeu vidéo, ouais, depuis, ouais, c'est ça, un an et demi, c'est full boucher.
Le cinéma, la série, c'est pareil. Ce que je trouve assez... Enfin, je sais pas, c'est qu'une impression où vous aussi vous sentez, vous qui êtes comme moi un vieux briscard, que c'est quand même vraiment particulier. Plus que... Moi, quand j'ai commencé, c'était la merde aussi parce qu'il y avait que Guff, en gros, dans le Nord, là-bas, loin. Et il y avait... bon, il y avait Cube, il y avait un peu Micros qui arrivait, etc. Mais, donc, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes pour déjà pas mal d'écoles. Mais je trouve que là, c'est
Mais il y avait quand même déjà beaucoup moins d'écoles.
Oui, moins qu'aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, clairement, je crois.
Ouais, clairement.
Clairement. Mais je trouve qu'en plus, là, c'est, ils sont en train de se remettre à envoyer des trucs en Inde. Enfin, je comprends pas ce qui se passe, en fait. Et, j'ai entendu pendant 10 ans que c'était nul à chier d'envoyer tout en Inde parce que la qualité est dégueu. Et là, il y a une espèce d'amnésie générale en mode non, mais c'est pas grave.
Mais on aime bien les Indiens quand même.
Ah bah bien sûr. Rien contre eux.
Et c'est très étrange parce qu'en fait, ils commençaient tout juste là à ramener des productions d'Inde en Europe en disant on veut plus y aller. Et là, c'est ils retournent, mais ça s'est passé en même pas 2 ans en fait. Mm-hmm. Et alors entre ce qui se passe aussi au Canada, qui enfin ça fait beaucoup.
Tu parles du crédit d'impôt qui a été retiré là, au Québec.
Ouais, enfin le dump en tout cas sur sur leur taxe. Parce que le crédit d'impôt ils l'ont toujours plus ou moins. Bon, bref.
Vas-y, je suis curieux, vas-y, dans le détail, parce que j'ai suivi.
Bah, ils l'ont enlevé ou ils l'ont
pas enlevé? Au moins, ils avaient viré 60%, je sais pas quoi, machin, bref.
Bon, en fait, c'est qu'à la base, mais comme t'avais à Singapour, c'est que t'avais un tax dumping qui était sur les salaires. Enfin, ouais. Moi, c'est ce que j'avais compris, en tout cas. Après, le crédit d'impôt, comme nous, on l'a en Europe, pour moi, ils ont toujours accès à ça, en fait.
D'accord, ok.
Quand tu parles du financement d'un projet, mais par contre, oui, des salaires, les studios vont devoir tout payer. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris.
Parce que le gars qui était allé, je sais plus si quelqu'un a le nom de c'était Rodéo ou c'était Dinec, je sais plus, qui était passé dans les journaux carrément
Rodéo.
Québécois. C'était Rodéo.
Rodéo FX, ouais.
Qui avait dit carrément qu'on les appelait même plus, quoi. Les mecs, ils étaient en mode, non, mais on va même pas voir avec vous parce que de toute façon, c'est plus possible.
Si t'as 60%, 80% de dumping sur tes salaires et que du jour au lendemain, tu dois les payer complet.
Tu rajoutes 80%.
Ça fait bouse, ouais, ça doit faire bizarre.
Ça fait beaucoup, ouais. Donc ils ont bien, les studios sont quand même bien contents d'avoir, enfin les producteurs en l'occurrence, d'avoir les villes et les subventions et tout ça.
Ça tourne beaucoup avec ça. Hein.
Ouais.
Et puis ça change de localisation au fur et à mesure de là où il y a des tax credits qui arrivent, quoi. À mes yeux, je trouve que
on a fait un effort en France là-dessus aussi.
Oui, et je pense que ça va attirer des productions. Ouais. À voir comment ça va se passer sur les prochaines années. Et est-ce que c'est pas trop tard aussi? On verra. Moi, j'ai pas de boule de cristal de ce côté-là. J'en ai pas tout court, mais j'aimerais bien. Mais, le fond du truc aussi, où il faut se rendre compte, c'est que d'un point de vue général, ces dernières années, surtout les 2 dernières années, on a une remontée des taux d'emprunt qui est énorme. Qui est en fait, si on est un producteur gros cigare qui a de l'argent et qui en fait a besoin de plus d'argent pour créer quelque chose, pardon, emprunter de l'argent aujourd'hui coûte pratiquement 5 fois plus cher qu'il y a pendant la période Covid. Ce qui fait que le risque aujourd'hui, je vais faire des gros chiffres et ça va être très imparfait, mais peu importe. Admettons que hier, emprunter 10 millions d'euros, ça coûte 1% par an. Avant remboursement total, et ben aujourd'hui on est mettons à 5%, 5,5%. Ben en fait la somme à emprunter est 5 fois plus élevée.
Elle est énorme.
Et sur du long terme, elle est, ça veut dire que le bénéfice qu'il faut qu'on fasse avant d'arriver à quelque chose où on rentre dans nos frais, c'est au-delà de 5%. Là et où en fait auparavant on pouvait se dire bon bah si je fais 4% de bénéfices sur 100 millions bah en fait c'est super cool et je suis très content. J'exagère, les chiffres ils sont bien entendu pas bons, mais le fond il est là.
Donc quand on parle de l'effet post-Covid, c'est pas que juste les gens consomment plus, c'est aussi que en fait dans cette période très précise c'était pas cher, quoi.
C'est multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Notamment le premier, c'est de dire que en effet, comme l'a dit Justine très justement, c'est que pendant le moment où tout le monde est chez soi, ne peut consommer que des choses qui sont dématérialisées, bah en fait on peut faire de la série à balles ou en tout cas ressortir des trucs et puis les rebrander, etc. Et puis dire ah c'est du neuf, ou alors sortir des jeux vidéo. Exactement, c'est forcément. Et passer cet élément-là, bah, ça devient plus compliqué de faire de l'argent, avec une remontée des taux qui arrive en même temps, avec aussi l'IA, et on en parlera certainement, qui arrive aussi, et qui fait dire à des investisseurs qui cherchent à faire de l'argent rapidement, est-ce que je me positionne pas sur un autre marché pour mettre mon argent et espérer avoir du retour sur investissement?
Ça fout un blanc. Étrangement.
Tout d'un coup. Moi, je voulais pas vous miner, voilà. Hein,
et alors, j'ai entendu dire que le crédit d'impôt pour les jeux vidéo aussi allait probablement disparaître en France. Alors, au Québec, c'est, je crois, pour janvier de l'année prochaine, enfin janvier 2025. Et je crois qu'en France, c'est...
Malheureusement, ils en parlent pour en France, mais j'ai pas tout suivi en détail. J'ai entendu que peut-être, je crois que c'était en discussion, mais ça mettrait pas mal d'entreprises à mal. Je sais en tout cas qu'à la Splash Team, on est content de l'avoir. Donc... Voilà, à suivre.
Est-ce que tu sais combien c'est à peu près ce rabais d'impôt qui arrive?
Non, je ne saurais pas dire.
C'est une suppression carrément.
Et actuellement, il correspond à combien? Et actuellement, il est fait comment ce crédit d'impôt ? C'est de dire, bah, par exemple, sur l'impôt des sociétés, il est rabaissé de 20%. Est-ce que quelqu'un sait ou... Juste par curiosité, quoi, ça m'intéressait.
Non, c'est pas un rabais sur tes impôts. En fait, c'est des dépenses en réel, sur la production d'une vidéo que tu vas déduire un certain pourcentage en fait, pour les rabais par exemple. Mmh.
Ok, ouais. Oui, genre CIR, etc. Crédit d'impôt recherche, c'est... Ok, ouais.
Je ne sais pas si on va entendre. Super. En fait, en
je peux répéter, mais c'est. Ouais, c'est du coup sur combien a coûté le jeu à faire. Il y a une partie qui peut être passée en crédit impôt recherche, entre autres. Et du coup, c'est vrai que ça. Enfin, nous, on en a profité aussi comme d'autres entreprises en animation. Et c'est vrai que ça aide grandement à pouvoir dire, bah, tiens, on a envie de s'engager sur, par exemple, un nouveau pipeline qui est un peu innovant. Bah, on peut passer une partie sur le crédit impôt recherche et ça amoindrit des coûts d'évolution d'une entreprise. Et c'est vrai que c'est pas du tout négligeable, quoi. C'est 2-3 postes des fois sur des entreprises qui ont une trentaine de personnes.
Bienvenue sur CGY Business.
Après BFM Business, CGY Business. En restant, on va essayer de ne pas déprimer.
Oui, hein, mais comme ça on aura fini avec le Mossad. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Pardon.
Oh, bien. Ça. Pourquoi tu parles d'Israël ? Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas.
Non, pas ce soir.
Mais pas ce Mossad-là, pardon. Non, par rapport aux acronymes, la BFM, machin, tout ça, et USD.
Ah.
Ta-ta-ta. Le mec revient avec sa technique.
Ah oui, je croyais que t'allais enchaîner dans le triste. Mais parce qu'on était dans les trucs qui se cassent la gueule, comme le jeu vidéo, par exemple.
Ah bah non, USD, ça se casse pas la gueule.
Passons à l'USD.
USD, Universal Scene Description, qui a été co-construit par Pixar, entre autres, mais pas que. C'est un format de fichier et à la fois un workflow qui permet de dire que là où avant, on avait des technologies qui étaient semi-ouvertes, mais pas vraiment, qui permettaient d'échanger des données entre logiciels, par exemple de l'OBJ, de l'Alembic et d'autres. Là, il y a des gens qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit bah ce serait cool si on avait en fait un descripteur de fichiers qui soit commun et qui permette en fait de toujours avoir pratiquement à chaque fois peu importe le logiciel, que ce soit Maya, Houdini ou Blender ou peu importe, un élément qui ait la même description et qui soit ouvrable partout. Par-dessus ça, il y a d'autres technologies qui se sont rajoutées, par exemple MaterialX, qui sont intéressants aussi pour dire bah OK, on a vu ce que vous faisiez côté USD, et ben on va faire pareil pour le rendu. Et du coup, que vous rendiez sur VRay, Redshift, alors bon, je cite des noms qui ont pas du tout le support de MaterialX, malheureusement aujourd'hui, mais mettons dans un futur proche, on leur souhaite. Alors, on pourrait dire que, mettons, il y a Karma, Renderman et Arnold. Si on envoie le même fichier qui a de l'USD et qui a les shaders en MaterialX, on a un résultat qui est extrêmement proche. Ce qui permet, en fait, surtout, on va pas se le cacher, à des gros vendors, à des grands producteurs, à des grandes maisons d'édition qui génèrent beaucoup de données, de pouvoir s'échanger des données et de dire, bah tiens, moi j'ai bossé sur Spider-Man avec telle mèche, je te l'envoie avec les textures et à la fin, tu as à peu près la même chose. Et puis au compo, on retire les 5% de différence, mais on est quand même très, très proche au lieu de retravailler la même chose dans des autres
formats.
Exactement, ouais.
Et ça facilite les multiprods avec des studios dans tout le monde, quoi, c'est ça ?
Ouais. Et même, en fait, le truc qui est intéressant aussi avec l'USD, alors, on pourra en parler si vous voulez, j'essaie de faire vite, mais c'est vrai que c'est pas du tout anodin en termes de pipeline parce que c'est des logiques qui sont complètement différentes. Pour la faire rapide, c'est la même chose que Photoshop et PSD, c'est de dire qu'en fait, on a un système de layering avec des calques qui s'ajoutent les uns sur les autres et de dire bah par exemple on a un layer de modeling puis un layer de shading et puis par-dessus en fait ça va être envoyé dans un shot et au shot bah on va avoir quelqu'un par exemple au lighting qui va modifier le shading et il va encore avoir accès en fait au shading et pouvoir dire ah bah tu sais quoi en fait ma diffuse je la veux 10% moins forte et ben étant donné que dans le layering elle est plus en haut du layering, elle va émettre une opinion qui sera plus forte et qui du coup restera dans le shot final. Et du coup, ça permet dans toute une production de conserver en fait de la malléabilité et surtout ça pourrait aussi permettre, mettons un exemple, de dire à des animateurs ah bah le shot USD il est conçu et bah vous pouvez avoir accès aux caméras, au lighting pendant que non alors on me fait non de la
dis pas ça aux animateurs non
mais,
s'il vous plaît
mais en fait Moi, j'ai des super exemples.
Fellow animateur, je me fais bully pendant toutes les émissions. Hein.
Non, mais en fait, animer des choses qui sont dans la DOF et qui sont dans la Shadow, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Alors mais si en fait parti. On, oui. Et si en fait on arrive à dire, bah, on récupère ces informations-là dès l'animation, même si on a juste un truc temporaire, bah, ça permet d'avancer plus vite, plus efficacement, et surtout de mettre l'énergie là où il y a besoin. C'est la promesse de l'USD. Dans les faits, c'est pas facile à mettre en place. Il faut beaucoup. Dans les faits, pardon.
Ah, dans les faits, pardon.
Joli. Je vois ce que. Mais du coup, c'est pas si facile que ça, mais on y arrive petit à petit et c'est intéressant. Ouais,
c'est vraiment important de voir ça au-delà de seulement un format de fichier. C'est vraiment un format d'échange pour de la scène. D'ailleurs, c'est ce qu'il décrit à la base. Hein, c'est vraiment de la scène. Et de fluidifier le travail entre les départements. Et c'est ça qui était très compliqué avant, c'était que de passer du layout à l'anime, à chaque fois il fallait régénérer des scènes, ça devenait destructif, si toi tu changeais ta caméra, il fallait régénérer à nouveau pour l'animateur, c'était toujours très long, très complexe, et là l'USD nous permet ce côté justement avec ces layers Photoshop, un peu comme il les a décrits, d'être non destructif et de faciliter justement ces échanges entre les départements.
Donc du coup c'est le futur ?
Oui et non. Ah. François, t'as l'air d'avoir un avis.
Alors, pendant que vous réfléchissez, Justine, est-ce que l'USD, on en parle dans le jeu vidéo ?
Je ne connaissais pas avant, là, tout de suite.
C'est vraiment un format de fichier qui est poussé dans un premier temps par Pixar et qui est adopté petit à petit par des logiciels. Mais c'est, par exemple, SideFX et Houdini, ça a été les premiers à mettre plein pot dessus, à tel point qu'ils se sont dit, bah, aujourd'hui, si vous voulez faire du lighting performant dans notre logiciel, vous êtes obligé de passer en USD. Et c'était quelque chose qui était très, très, très clivant dans la communauté. Là où, en fait, aujourd'hui, encore sur Maya 2025, il manque plein d'options liées à l'USD.
Étonnant.
Et en fait, c'est ça. C'est que l'USD, pour rejoindre le côté jeu vidéo, l'USD essaye de résoudre des problèmes qu'il y a dans Maya ou tous ces DCC, en fait, qu'on ne retrouve pas dans le jeu vidéo. En fait, dans le jeu vidéo, ça a déjà été résolu depuis très longtemps. Et l'USD se rapproche, en fait, vraiment de la façon de travailler dans le jeu vidéo. De ce côté non destructif et de gérer la donnée, en fait.
D'ailleurs, un des trucs qui est vraiment intéressant côté données et côté jeux vidéo, moi j'ai découvert venant du monde de l'animation où nous on a l'habitude de versionner et des scènes de travail et des exports, à se retrouver des fois avec 200, 300 scènes de travail et puis des cinquantaines, centaines de versions d'export pour la même donnée. Là où dans le jeu vidéo, en fait, moi j'ai appris avec Perforce, mais il y a d'autres systèmes qui existent, de dire bah en fait c'est le même fichier qui est versionné en sous-jacent et nous on accède que toujours au même fichier. Et c'est super intéressant de voir que c'est déjà plus efficace, moins gourmand en données et sur les réseaux beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des ponts à faire en fait entre le jeu vidéo et l'animation qui doivent continuer à exister aujourd'hui, quoi. Mm-hmm.
Voir se faire un peu plus ténu ou...
On en parlait de vieux briscards. C'est en fait toute la question, c'est de dire est-ce que les gens qui sont à la base de la dette technique sont en mesure et ont l'envie de modifier les centaines de milliers de lignes de code qu'ils ont pu générer à travers le temps. Je suis pas certain, et puisque d'un point de vue purement personnel, je suis passé dans des entreprises où il y avait des codes de pipeline qui étaient non commentés à dessein, qui permettaient juste à des personnes de conserver leur emploi.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, il y a une vraie question.
Les salopards.
Non, mais il y a une vraie question en fait de dire est-ce que les gens ont envie de changer quand en fait ils sont au poste qu'ils sont juste parce qu'en fait
ils ont les clés du château. Quoi.
Exactement, exactement. Je suis pas certain.
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Maya. C'est exactement ça. Tout ça, quoi. C'est toujours le même problème.
Ouais. Justine.
Bah, puis après, j'allais rebondir. En vrai, on a des problématiques un peu particulières, qui font écho dans le jeu vidéo, dans le sens où des boîtes qui sont là depuis longtemps, je pense notamment à Ubi, qui ont leur moteur maison parce qu'il n'y avait pas forcément Unity Unreal aussi accessible, aussi développé à l'époque, qui ont leur moteur maison depuis très longtemps, qui marchent bien et qui ont justement bah, tout leur savoir et tout leur... développeurs qui connaissent ces technos-là, qui savent comment marche le moteur, qui savent tout ça et qui sont peut-être aussi un peu frileux à... Enfin, qui ne vont pas forcément passer sur Unreal demain parce que c'est important tout ce savoir. On sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'on peut faire avec, on sait ce qu'on produit avec et mine de rien, ben, est-ce que vraiment le coût de s'en détacher est intéressant, quoi ?
Alors du coup, est-ce qu'il vaut mieux, dans l'avenir, avoir son truc propriétaire, mais open source ? Okay, je vous laisse réfléchir. Ou un truc fermé, mais comment dire, commercial, quoi. Et pas open source, du coup.
Oui, non, peut-être.
Non, oui, Vous avez 2 heures, 3 copies doubles. Allez-y.
Nous, dans notre industrie, en tout cas, on voit les budgets des projets descendre de plus en plus. Et le faire du développement avec beaucoup de propriétaires, c'est très compliqué. De plus en plus compliqué pour le financer. Donc, on s'oriente de plus en plus sur du commercial qu'on peut quand même customiser un peu, peut-être qu'il est parfois open source. Mais partir from scratch, développer ta propre solution dans l'industrie de l'animation, aujourd'hui, au vu de l'avenir des budgets...
Même Pixar, il commence à freiner des 4 fers,
oui.
Ou des 12.
Mais même les plus gros, surtout les plus gros studios. Et ça, pareil, l'inertie que tu as sur des gros studios a changé, comme on disait tout à l'heure. C'est encore plus compliqué, mais quand tu dois garder tes développeurs et la dette technique dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais, en fait? Au bout d'un moment, est-ce que tu as envie de te trimballer encore les casseroles derrière alors que tu n'as plus les gens, tu n'as plus la matière grise, en fait, qui a créé tous tes outils? Et est-ce que tu partirais pas sur un commercial et revoir les bases, quoi?
À parler de gagner du budget et voilà et de d'économiser et tout ça, voilà, la production, la valeur travail, pardon. Bernard Friot, c'est en de moi pendant 2 secondes. La petite dernière question, je pense, avant la pause. On est un petit peu entre les deux là et en fait depuis tout ce temps là, depuis tout ce qu'on raconte, ça a été la course au photoréalisme dans le jeu vidéo, ça a été la course au temps réel du coup aussi forcément, la course gagner du temps de rendu, avoir des farms qui la Californie c'est que des farms en fait maintenant, il y a plus rien, mais pas des farms avec des vaches, hein, des farms avec des serveurs quoi. Est-ce qu'en fait moi ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans cette course là? Est-ce qu'il y a encore moyen de gratter du temps de rendu, de gratter... Je parle vraiment de manière relativement technique, quoi. Pas forcément... Oui, évidemment que si on met 12 milliards de farms en plus, bon, la planète en prendrait un coup, mais ça pourrait faire gagner du temps. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est passé...
Pour l'éclater.
Est-ce que vous avez l'impression, en fait, qu'on est arrivé à un petit gap, quand même, là, ça y est, maintenant, un film, les VFX photoréalistes... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne voient plus la diff entre un truc en CG, et pourtant, des fois, ils sont dégueulasses, et des trucs réels, etc. Voilà, donc en gros, est-ce que... Oui, typiquement, putain. Ouais.
Bref. J'ai rien dit.
Oui.
Nous ne mettrons pas les notes dans les notes.
Ce n'est pas de mon goût. C'est tout. Et voilà, est-ce que vous pensez que ça y est, on est arrivé à un espèce de benchmark, on va dire, et que maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions pour ou est-ce que c'est encore... Il y a encore ces petites magouilles pour essayer de gagner 2-3 secondes de rendu, ou gagner
oui
FPS,
et non.
Etc.
Définitivement oui et non. C'est un peu une question à tiroir parce que je trouve que ça. La première question sur la question du temps de rendu. En fait, sur les 10 dernières années, le temps de rendu il est moyen, il a pas bougé.
Ok.
En fait, il est resté entre 1 demi-heure et 45 minutes sur des gens qui avaient suffisamment de budget pour juste rendre des frames.
1 demi-heure 45 minutes, la frame.
Ouais. Mmh. Oui. Sur du précalque, on est sur ça. Ouais.
Ok.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, il y a des moteurs GPU qui sont arrivés et qui ont un peu mis un coup de pied dans la fourmilière et qu'on dit.
Moteur GPU.
Donc GPU, graphical processor unit, donc des cartes graphiques.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, on a des moteurs qui permettent d'utiliser soit uniquement la carte graphique, soit soit moteur GPU, soit XPU qui utilise à la fois le processeur et la carte graphique. Et donc aujourd'hui, les moteurs GPU sont beaucoup plus rapides, mais plus limités, puisqu'en fait, bon, je passe le côté technique qui est pas forcément intéressant, sauf si on montait dessus. Mais en tout cas, moi, ce que je peux percevoir, c'est que sur les 10 dernières années, on est resté à peu près entre 1 demi-heure et 45 minutes la frame. La qualité de l'image finale a augmenté, certes, mais le temps de calcul est resté le même et les machines ont grossi. Et du coup, la consommation électrique a grossi avec. Et donc, l'illusion de se dire qu'en fait, on calcule plus de frames en moins de temps, à mes yeux, elle est fausse.
C'est pas le cas, voilà.
Elle est uniquement existante dans des cas marginaux qui peuvent être des cas comme des boîtes telles que Dwarf qui font en fait du Unreal, etc., et qui se posent la question. Mais en fait, il y a une question de se dire ce qu'on cherche à augmenter et ce qu'on cherche à optimiser, c'est la qualité de notre image finale et pas le temps qu'on met à la générer. Et en fait, à travers le temps machine et le temps licence aussi, et le prix des licences est relativement marginal pour une grosse entreprise, et dire j'ai une grosse render farm, ou alors ça va devoir, est-ce que ça passe dans la nuit tous mes rendus, oui ou non? Si ça passe dans la nuit, ok, pas de souci, et en fait on y va. Et si on n'est pas dimensionné pour que ça passe dans la nuit, bah, soit on demande à optimiser, mais ça coûte plus de temps humain pour le faire. Est-ce que c'est plus intéressant que juste racheter des machines? Bah, y a plein d'entreprises qui disent racheter des machines, c'est moins cher.
Ou alors on commence à 11h du matin.
Ou c'est pas trop l'idée, mais oui. Nous, ce serait un autre sujet de discussion, mais faire du 4 jours semaine, c'est très bien. En 32 heures travaillées, on peut.
Allez.
Je glisse ça, l'air de rien.
On parlera juste après la pause. Juste après la pause.
Je suis un tout petit peu plus mitigé là-dessus. Je suis grosso modo d'accord, mais je suis quand même un peu plus mitigé, toujours dans le sens où ça dépend du projet. Ça dépend effectivement de la boîte et du budget que tu as. Aujourd'hui, encore une fois, les films qui avaient un budget à 60 millions, on va te demander de les faire à 40. Ceux à 40, aujourd'hui, on commence à nous demander de les faire à 15 ou 20.
À cause des plateformes, tu crois, ou...
Les plateformes, parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
Ouais, tous les crédits.
En fait,
ouais.
Pourquoi tout ça est arrivé à retardement? C'est parce que t'as l'inflation. L'inflation va commencer à augmenter les salaires parce que tout commence à coûter cher. Donc, ta production coûte plus cher. Les producteurs ont moins d'argent. Parce que les plateformes ont aussi coupé énormément les commandes.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que et si donc, les salaires montent, il devrait y avoir plus de budget du coup. Non, c'est
mais
eux
non,
qui ne veulent pas en lâcher.
C'est eux qui
ne
lâchent pas
sens.
Parce que ça part de la plateforme au final. Si tu n'as pas ton distributeur, le producteur, il pourra bien essayer de lever tous les fonds qu'il veut. S'il ne peut pas vendre son film, ça ne passera pas.
Ouais.
Donc on voit ces budgets, nous aujourd'hui déjà, même pour du long métrage, vraiment chuter drastiquement. Et on ne pourra pas continuer à faire du rendu comme on le faisait avant. Tout, encore une fois, tout dépend du projet. Si tu arrives encore à signer des projets à 70 millions comme on le faisait avant, très bien.
Tu
mais
que ça, va,
ça change.
Cette histoire de rendu va rentrer en compte selon le budget qu'on va te donner. Tu vas commencer à dire mais moi, j'ai plus pouvoir de sortir une image comme
de
ça.
De toute façon, après, la qualité s'adapte aussi en fonction du budget, on est bien d'accord.
Ouais,
mais oui, forcément, à un moment donné, il y a. Je pense que ça va avoir un impact.
Et je vais juste une petite aparté. La qualité d'un film, c'est pas nécessairement la qualité de l'image finale non plus. C'est la qualité de la narration.
Oui, ça dépend lesquels, tu me dis.
Exactement. Je trouve qu'en fait, si on regarde des séries qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, comme Arcane, on proposait autre chose en termes de look qui, en fait, a un appeal qui est intéressant.
Oh ouais, enfin, tu veux parler du budget.
Non, oui, c'est complètement biaisé, je suis d'accord sur le fond. Ouais. Mais moi, j'en appelle et j'espère très, très, très fortement qu'en fait, on va arriver à un moment où, si on a réussi à faire du photoréalisme, on se dit, maintenant qu'on est capable de faire ça, où est-ce que c'est intéressant de mettre notre énergie? Est-ce que faire du stylisé dans des styles qui n'ont pas encore été trop vus, ce serait pas intéressant? Moi, j'espère que c'est ce qui va arriver.
Très belle transition parce que je suis plutôt assez d'accord. Je pense que dans le milieu du jeu vidéo, on est un peu plus sur ça avec justement cette différence souvent dans les studios plus triple A et les studios plus indés où les studios indés vont pas avoir l'argent, vont pas avoir les financements pour faire du photoréalisme en temps réel pour un jeu. Et du coup, on va aller sur du stylisé et souvent des esthétiques que personnellement moi je trouve peut-être un petit peu plus intéressante parce qu'on cherche vraiment une esthétique particulière, on cherche en fait quelque chose.
Tiny Kin, hein,
et oui voilà, Tiny Kin c'est que voilà de la 2D intégrée dans la 3D, on cherche une image, on cherche une ambiance, peut-être un peu plus que du photoréalisme, là où j'ai l'impression que par contre les studios AAA restent beaucoup depuis plusieurs années dans leurs envies de photoréalisme en tout cas. Et l'autre chose aussi, c'est les consoles. On n'a pas du tout les mêmes. Enfin, vous parlez de temps de frame, mais je vous entends dire 45 minutes. Et moi, je suis là en mode. C'est censé prendre. Non, c'est censé prendre beaucoup moins que ça. mais ouais, il y a les consoles aussi qui sont là. On a la Switch qui est probablement vieillissante et qui aura peut-être une deuxième, une prochaine version un peu plus technique, mais qui fait pas tourner des jeux trop performants pour l'instant. Et à côté de ça, on a la PS5 qui, elle, par contre, même pro qui se veut faire tourner des jeux bien bien performants et du coup ça dépend pourquoi on développe, ça dépend quel est notre but, ça dépend quelle est notre taille de jeu, notre taille d'équipe, enfin ça dépend de plein de choses et du coup le réalisme c'est le marché du triple A beaucoup et le marché de Xbox et de la Play et des PC mais après il y a tous les studios indés qui font des choses vraiment chouettes.
Tu es sorti il y a combien d'années de l'école juste pour me rappeler un truc?
Il y a 5 ans.
5 ans, est-ce que... Ouais, 5 ans, c'est ça. Donc, est-ce que t'avais l'impression, en fait, que les gens continuaient dans les étudiants, etc., de poursuivre ce truc. Moi, quand j'étais en école de 3D, c'était vraiment... Il y avait une équipe qui faisait du art, de l'art. C'était des artistes. Il y avait une équipe qui était en mode, moi, je veux faire un mec avec des gros muscles et des armes, avec du photoréalisme partout. Je vais mettre du retracing, je trouve les voitures. Et... Beaucoup d'affection. Y a pas de,
vous n'avez pas vu faire Macron.
Il n'y a pas de jugement. Oh, oui, c'est clair. Et donc, voilà. Est-ce que tu avais ce sentiment aussi qu'il y avait encore ça, ou est-ce que déjà, il y avait cette scission qui était sentie dans l'école, de dire, ouais, non, mais en fait, c'est cool, le truc un peu indé, un peu plus...
En vrai, j'aurais un peu du mal à répondre. Je pense qu'on était un peu indé, parce qu'en fait j'étais dans une école d'ingénieurs et on faisait pas que de jeux vidéo. D'accord. On avait des gens qui faisaient plus du web et on avait des gens qui sont même partis dans le cinéma d'animation, des gens qui sont partis à Micros par exemple, donc c'est un peu dur à dire. Okay. Je pense qu'on était globalement, dans ma promo en tout cas, et les promos autour, plus du côté artiste que du côté je veux du réaliste de bourrin. Okay. mais l'école était très diversifiée et du coup l'aspect étudiant jeux vidéo, je l'ai moyennement, quoi.
Ok.
Je trouve que un truc qu'on a dans le jeu vidéo qu'on n'a pas du tout, enfin beaucoup moins en tout cas dans l'animation, pour une question de coût, je trouve que en tant que consommateur pur, aller sur des jeux indépendants, je trouve que je me régale beaucoup plus qu'aller sur des AAA où en fait tout est streamliné, tout est en fait attendu, et du coup je m'ennuie sur du AAA, là où sur de l'indé, et ben en fait des fois je vais me retrouver avec des expériences qui vont durer 2-3 heures, mais je vais me régaler beaucoup plus. Ouais, et moi j'espère que en fait en animation on arrive à tirer en fait des leçons de ça et qu'on les transpose de notre côté en animation. Moi, c'est vraiment un des trucs. Ouais. Ça et l'utilisation des textures.
C'est pas un petit peu ce qu'il y a avec justement toutes les séries d'anthologies, comme je pense à Love, Death and Robots, et puis ce qui arrive là, Secret Level.
Mais le budget sur ces trucs-là, c'est énorme.
C'est énorme.
En fait, il n'y a pas d'indé.
Un budget un peu plus pour avoir un truc qualitatif et qui se démarque et qui change et qui... Non.
Je pense que la qualité ne dépend pas du budget.
Est-ce qu'ils sont vraiment énormes parce que c'est la période qui est dure, ou est-ce qu'ils sont énormes à hauteur de ce qu'ils demandent? Parce que moi, je vois toujours les gens qui font ces trucs-là disent « Oh, on a chié, on n'en pouvait plus, on faisait du samedi, du dimanche. »
De toute façon, dès que tu as du budget, en général, déjà, quand il n'y en a pas, ils sont assez chiants. Quand ils en ont, autant te dire qu'ils sont très...
Chiants, pointilleux.
Je sais que c'était pas trop le but de la question, mais je rejoins beaucoup Valentin sur la qualité, c'est pas forcément la qualité de l'image. Et je pense que le truc aussi, c'est que justement, dans le jeu vidéo, en particulier dans l'indé, comme de toute façon on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément les moyens de faire du réaliste et qu'on fait plus du stylisé, etc., et ben on va justement aller chercher des aspects du jeu autres, donc la narration, le gameplay, et on va beaucoup plus les enrichir. Et je comprends tout à fait pourquoi tu peux dire que tu t'ennuies moins sur des jeux indé que sur des AAA.
De la contrainte et la créativité.
Exactement.
Oh là 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 là.
C'est beau.
Bon, j'aurais aimé te laisser finir cette première partie là-dessus.
Mais
je vais faire un dernier. Il y a eu des applaudissements carrément.
Ah oui, c'est ça.
Un dernier blind test, celui-là, il est ultra facile, vraiment, je vous assure. Et après.
Dans le public, il y a eu un tumeur.
Si vraiment vous ne l'avez pas, celle-là, je suis désolé, mais voilà. Il y aura donc les deux dernières bières à gagner. Je vous laisserai celui qui gagne le distribuer à qui il le souhaite. Est-ce que c'est que j'y ai pensé, mais je me suis dit non, je vais pas mettre Matrix quand même. Même les gens qui écoutent le podcast savent que voilà. Bref, c'est parti.
Toy Story.
Il y a eu un Toy Story. Est-ce que vous vous battez ou est-ce que c'est Paul qui l'a?
Quel est le titre québécois?
Ah, le titre québécois. Quelqu'un là?
Histoire de jouets.
Oui. Voilà, donc c'est tout.
C'est pour Paul. Je sais pas qui est Paul, mais c'est pour Paul.
Et donc, je rappelle le thème. Il est le Prums de quoi?
3D.
Le premier film d'animation en 3D, évidemment,
entièrement
en 3D. CGI.
Ouais, entièrement.
Évidemment. Paul, tu peux venir chercher tes bières. Et oui, il y en a deux petites. Normalement, hein, moi qu'on les ait volées.
Non, c'est bon.
Il y en a deux.
Et puis.
Ah, moi, j'avoue que ça va être le moment nostalgique, mais moi, j'avoue que j'ai découvert Toy Story au cinéma. Et de voir ça, j'étais pas si jeune que ça. Je passais pour un vieux con, mais j'étais pas si jeune que ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai été scié en deux.
Ah ouais.
Ah, on le regarde maintenant, c'est hyper moche. Mais pour l'époque, c'était bluffant. Je suis resté comme un con dans le cinéma à me dire qu'est-ce que je viens de voir en fait.
Comme ceux qui l'ont vu la première fois.
C'est marquant. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement dingue.
C'est marrant. Tu l'as découvert quand, Toy Story, justement?
Je sais pas en vrai. Je saurais même pas dire quand j'étais enfant, quoi. Mais au milieu de tous les autres dessins animés que je regardais.
Ça avait pas trop vieilli à ce moment-là déjà ? Tu te rendais pas compte forcément ?
Non, je pense que je me rendais pas compte. Ouais. Mais je pense pas que ça avait vieilli tant que ça pour autant.
Moi, je trouve toujours sublime. Hein, mais voilà, après, c'est des petits plaisirs. Toutes les astuces d'anime et tout, des contraintes de l'époque faisaient que voilà quoi.
Même l'histoire faisait rêver quand même. En fait, ça te ramenait à l'enfance. En fait, il y a quand même un truc dingue.
Ce qui est beau, c'est qu'en fait, ça a été utilisé comme médium pour un truc qui serait difficilement faisable ailleurs. Et en fait, c'est ça aussi qui participe à faire rêver. C'est de dire, bah, on a un outil qui permet de raconter une histoire sur des jouets qui prennent vie. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, faire du photoréalisme en 3D n'a pas beaucoup d'intérêt versus filmer des vrais acteurs. Ouais. Et j'espère qu'en fait, on va retrouver cette espèce de magie de dire, on va continuer à raconter des histoires qui seraient pas racontables ailleurs. C'est déjà ce qu'on fait, mais aller dans la voie du photoréalisme, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à ça.
J'allais dire, il ouvre la porte sur le futur. C'était pour finir la première partie, mais vas-y.
Mais en même temps, il y avait eu autre chose qui était, alors sensiblement à la même époque, j'ai pas les dates en tête, mais il y avait eu le premier Spider-Man de Sam Raimi, qui avait utilisé aussi, pour la première fois, une doublure numérique. Et ça, c'était un truc de malade aussi. Ah, quand on voyait Spider-Man se balancer au milieu des immeubles de New York, etc. Toi, t'étais là, tu disais, mais c'est pas un acteur qui a fait ça. Enfin, c'est complètement...
Je parle pas. Si,
c'était 25, ils sont tous morts. Mais c'était un truc complètement dingue. Et c'était bluffant aussi pour l'époque. Et du coup... Ah, pour le coup, c'était du photoréalisme, alors que Toy Story, bon, ça se voyait un peu.
T'as tout à fait raison. Ouais, complètement, ouais.
Donc, bah écoutez, on a commencé à toucher du doigt l'avenir. On va en parler beaucoup dans la deuxième partie. On parlera aussi pas mal de certaines questions plus sociales, on va dire, etc. Je pense que, Doc, on va faire une grosse émission. On fait une pause, mais en vrai...
Non, mais on va faire...
Il n'y aura pas de CG Beers, ce sera juste la suite. Tu feras ton moment...
Alors, je fais le...
Tu le fais après.
Je fais l'interview après. Parce que je vais plus appeler ça le moment Hardisson. Ça commence à être vieux.
Ça commence à être...
Voilà. Plus personne ne sait qui
personne
est Thierry Hardisson. Voilà, merci. Voilà, merci. Ceux qui le savent, vous savez que vous êtes des vieux. J'ai appelé ça l'interview offset.
Eh ben voilà, l'interview
décalé.
Offset.
Ça marche, hein. On la fera aussi de J-Beers, alors.
Mais oui, voilà. Il reste encore pas mal de sujets liés à la semaine de 4 jours.
La semaine de 12 jours.
Oui, la VR, la mocap, l'avenir. On va parler de tout ça juste après. On fait une grosse pause. Et puis, on mettra la suite de l'émission pour les patriobipèdes. Je pense que ce sera pour les bipèdes qui nous écoutent, ce sera directement après. Mais le public, ce sera dans 20 minutes.
Ah, trop bien, merci beaucoup.
On fait une pause. Merci en tout cas à Justine, Valdo et François.
Merci à vous. Ouais.
Et au public qui sont bien du nombreux.
Et au public, merci à tous. Merci beaucoup. Vraiment merci.
Et au Patreon Bipède, grâce à eux qu'on boit des bières gratos. Non, je déconne. Allez, gros bisous à tous.